on retombe à 2020, je sais pas si tu te souviens des feux qui sont arrivés en Australie. On a décidé, nous, chez KCB, on est des amoureux des animaux, puis fait qu'on a décidé de faire une levée de fonds pour venir financer, en fait, une aide pour les animaux en Australie. Puis on s'est retourné sur un design en 48 heures. On a dit, OK, on le fait. On a eu deux designs, nos designers graphiques, on travaille là-dessus. Puis le lendemain, c'était en ligne. Fait une levée de fonds là-dessus. Ça a été d'ailleurs un succès monstre. Je pense que c'est un des plus gros stunts qu'on a fait. Malheureusement, c'était à cause d'un drame vraiment triste. Mais reste qu'on a réussi à faire un don, je crois, autour de 35 000 $.
Mon nom est Antoine Gagné. Je vous souhaite la bienvenue au 107e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de $ de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Dans les 5 dernières années, très peu d'entreprises québécoises peuvent se targuer d'avoir autant bien maîtrisé le marketing d'influence que l'organisation CaseMe. Avec des centaines de collaborateurs qui utilisent et partagent leurs produits mensuellement, l'entreprise continue de gravir les échelons de croissance à vitesse ahurissante. Avec maintenant un chiffre d'affaires de 10 millions de $ annuels, l'organisation qui a été fondée à la base par William Giroux et Gabriel Bolduc s'apprête à accélérer son intégration dans le marché pan-canadien et américain dans la prochaine année. En plus de la croissance, William, président de l'entreprise, nous explique également comment CaseMe s'assure de faire des efforts environnementaux avec son commerce en ligne. On en parle donc autour d'une discussion qui a duré un peu plus de 45 minutes. Sans plus attendre, ma discussion avec William Giroux. William Giroux, vous êtes le président et cofondateur de l'entreprise CaseMe, une boutique en ligne qui, depuis 2016 maintenant, vend des accessoires mobiles. Propulsé par une stratégie de marketing d'influence très présente, votre organisation va passer cette année le cap des 10 millions de chiffres d'affaires annuels de revenus. William Giroux, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Salut Antoine, merci à toi pour l'invitation. Bien excité de jaser avec toi aujourd'hui.
Et de même. Et William, comme je l'ai dit en introduction, vous avez vécu une croissance très forte dans les dernières années. Mais maintenant, j'ai l'impression que toute cette prise de marché, ça a dû se faire en étapes. Peux-tu nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer CaseMe avec ton partenaire en 2016?
Ben, les entrepreneurs dans vie, hein, y a différentes façons de te lancer en affaires. Pour moi, c'était plus un concours de circonstances puis une saisie d'opportunités. Je venais de finir mon baccalauréat en administration. Puis, je travaillais, en fait, au développement des affaires pour une firme d'ingénierie, en fait, l'ancien bureau d'arpentage à mon père. Fait que moi, je m'occupais du développement des affaires là. Puis, en 2015, en fait, Gabriel, qui est mon cofondateur, on s'est rencontrés, en fait, prendre une bière avec nos copines. Et Gab, lui, finissait le HEC à ce moment-là. Puis, il avait l'idée, en fait, de partir une entreprise. En fait, elle était déjà partie, ça s'appelait CaseMe. Puis, il m'expliquait, en fait, à ce moment-là, que lui était spécialisé dans la personnalisation d'étuis. Il venait quand même de faire notre premier site Shopify par lui-même. Mais à ce moment-là, le focus était vraiment sur la production d'étuis personnalisés, autant aux couleurs des entreprises que des écoles. Encore aujourd'hui, ça fait peut-être à peu près un 10-15% de notre chiffre d'affaires, cette branche-là corpo. Puis c'est à ce moment-là que moi, je lui ai lancé l'idée qu'on double down plus sur tout ce qui est web. Moi, c'est le marketing. J'ai pas étudié là-dedans à l'université. J'étais plus en entrepreneuriat, finance. Mais reste que c'était de quoi que j'appréciais vraiment beaucoup. Puis on était dans le début des influenceurs web au Québec. Donc voilà comment ça s'est déroulé.
Vous avez pris la vague très rapidement, effectivement. Vous avez été dans les premières entreprises à comprendre l'impact et le pouvoir du marketing d'influence parce que c'est beau construire la boutique, mais il faut également la promouvoir. Et j'écoutais différents entretiens que tu as donnés dans le passé. Et corrige-moi si je me trompe, William. Donc, comme tu le dis, Gabriel avait l'idée. Je pense qu'il s'est également occupé par la suite de bâtir la boutique en ligne. Et toi, tu t'es occupé du volet marketing numérique. Et j'ai l'impression qu'un de vos premiers gros coups a été avec Andréane Marquis. qui a parlé de vos produits à sa communauté qui était déjà forte à l'époque. Peux-tu nous en dire un petit peu plus derrière cette idée d'aller voir Andriane et de lui exposer l'idée de faire la promotion de Case Me?
T'as bien fait tes devoirs. J'en parle souvent d'Andriane parce qu'elle a été dans les premières à croire en nous. Parce que quand tu lances ta business puis t'as 150 followers sur Instagram, c'est de franchir le cap des 1000 est quand même difficile au début. Puis elle, dans le fond, elle avait déjà une belle notoriété en ligne. Elle aussi venait de partir Women's, qui est une entreprise e-com également, qui est spécialisée dans le vêtement. Maintenant, elle fait autre chose aussi. Mais à ce moment-là, dans le fond, elle prenait plus des contrats un peu d'influenceurs pur et dur. Puis c'est à ce moment-là que j'ai tout simplement décidé de lui écrire un message, lui expliquer un peu c'était quoi notre vision de Case Me. Puis elle m'a dit « Let's go les gars, j'embarque avec vous, envoyez-moi ce que vous voulez, puis on va simplement faire un concours. » Puis si on revient de 6 ans en arrière, c'était les bonnes années d'Instagram qu'on pouvait aller chercher une croissance plus rapide. Les concours à ce moment-là, c'était comme la façon que toutes les brands pouvaient grandir rapidement. Donc, suite à ça, on a vraiment réalisé l'ampleur. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore faire des études de marché, puis j'étais déjà abonné à 1001 brands aux États-Unis spécialisés en e-commerce, puis c'était quelque chose de normal pour eux là-bas, tandis qu'au Québec, ça commençait tranquillement à prendre une place sur le feed Instagram. Donc, on s'est dit, crime, pourquoi pas l'essayer nous-mêmes? Fait que ça a été vraiment un travail d'envoyer des DM, une trentaine par jour, puis tu prenais ceux qui acceptaient, puis de fil en aiguille, on est rendu maintenant qu'on fait à peu près, je dirais, entre 150 puis 200 collaborations par mois à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. Puis là, le Black Friday qui s'en vient rapidement, on vise à peu près un 400 influenceurs dans un gap d'à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Voilà.
Puis, pour quelle raison t'as pris cette avenue-là? Parce qu'aujourd'hui, ça semble être une décision de génie. Ça a vraiment été fonctionnel pour vous. Puis, c'est clairement quelque chose que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en commerce en ligne et qui n'essayent pas d'aller travailler avec des influenceurs, vous laissez de l'argent sur la table, je tiens à vous le dire. Mais pour quelle raison t'es allé avec cet angle-là à l'époque? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, c'est quoi, c'est comme ça, c'est avec cette approche-là qu'on va faire le premier pilier de croissance pour Case Me?
Ben, c'était vraiment l'idée de bâtir une communauté. Moi, il y a un livre que j'avais vraiment trippé, c'est Tribes par Seth Godin. Puis, je me demandais comment créer cet esprit de communauté-là. Donc, on s'est rapidement positionné comme un brand qui utilisait le marketing d'influence pour croître. Mais nous, la différence, c'est que chaque influenceur, c'est pas juste un influenceur pour nous, ça devient une relation à long terme. Même que mon staff pourrait te dire, ils deviennent amis assez rapidement avec certaines personnes. Puis eux ont cru en nous au début et vice-versa. Puis on a des personnes que ça fait maintenant 5 ans, 6 ans avec qui on travaille de façon récurrente. Puis eux, leur communauté a grandi au fil du temps. Même chose pour nous. Puis c'est ça, je te dirais qu'on voyait vraiment les chiffres, le retour sur investissement. On pourra en reparler tout à l'heure avec tout ce qui est publicité, Facebook Ads, etc. Mais pour nous, on le voyait un peu comme un coût par acquisition précis. Donc, c'était un no-brainer pour nous d'aller dans cette avenue-là.
Puis, bon, je suis curieux, là, il y a eu le marketing d'influence, tu l'as dit, il y a eu les belles et les périodes peut-être un petit peu plus complexes maintenant avec les médias sociaux, où est-ce que la portée organique, ça n'existe quasiment plus sur certaines plateformes. Donc, force est d'admettre qu'à un certain point, on doit commencer à investir en marketing payant. Et là, on a eu des discussions, toi et moi, préalablement au podcast. Je pense que vos budgets marketing sont rendus sensiblement élevés, conséquents mensuellement. Mais tout de même, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, William, il n'y a pas de financement externe à Case Me. C'est encore détenu par toi et ton partenaire. Pour quelle raison vous avez pas pris cette approche-là? Et est-ce que vous êtes, tu sais, je veux dire, ça doit quand même être complexe de toujours autofinancer une organisation comme la tienne qui grandit à vue d'œil.
Effectivement, on est encore autofinancé depuis le jour 1. Puis honnêtement, c'est une décision personnelle que Gab et moi, on a décidé de prendre. Il y a des entrepreneurs qui vont aller dans la direction des VC puis d'aller lever des rentes de financement. Mais pour nous, pouvoir dormir sur nos deux oreilles le soir puis pas avoir la pression d'investisseurs externes qui te poussent à faire des choix des fois que toi, tu n'irais pas nécessairement dans cette direction-là. Pour nous, c'était même pas envisageable. Après ça, je dis maintenant, ça fait 600, on a déjà pensé à ça, mais on n'y est jamais arrivé parce qu'on se dit, pourquoi pas? Nous, on vise une croissance qui est saine, à échelle humaine aussi. Puis on vise un certain seuil de profitabilité aussi. Fait que nous, de venir diluer l'actionnariat pour rentrer un partenaire externe comme une firme d'investissement, c'était pas vraiment quelque chose qui nous intéressait au début, là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, effectivement, j'avais Alan Benguigui récemment qui est venu sur le podcast. Il me parlait de son entreprise Casper, qui est un SaaS, une entreprise technologique. Puis c'est beaucoup plus propice pour des entreprises technologiques d'aller faire des rondes de financement que pour des entreprises qui sont des boutiques en ligne. Tout de même, ça arrive quelquefois. Puis lui, ben, il a monté ça, 200 000 de monthly recurring revenu, aucun investissement externe. Puis il m'a dit exactement la même chose. Il y en a qui peuvent faire la course à la levée de fonds. Moi, j'ai fait la course à l'acquisition de clients, puis je suis capable de dormir sur mes deux oreilles. Donc, à la fin de la journée, il faut croire qu'il y a plusieurs avenues possibles quand on veut faire de la croissance accélérée, là.
Exactement. Puis, tu sais, aussi l'aspect que la seule façon pour toi de vraiment faire des sous un jour, c'est si tu as un exit. Tandis que si au fil du temps, tu as une belle profitabilité, ben c'est là que toi aussi, en tant qu'humain, tu peux diversifier tes sources de placement, etc. Donc, c'était vraiment plus une décision personnelle de notre côté, là.
Un autre point fascinant, William, pour CaseMe, c'est le fait que vous êtes un manufacturier. Donc, c'est important pour l'audience aujourd'hui de le savoir. C'est vous qui confectionnez vos propres produits en Beauce. C'est assez exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont dire « on est un produit local, on est un produit du Québec », mais au final, quand tu analyses en détail, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites au Québec. Vous créez, vous confectionnez vos produits, vous allez acheter bien entendu certains ingrédients d'ailleurs, mais à la fin de la journée, c'est vous qui avez mainmise sur votre production. Peux-tu nous parler de l'évolution de cette production-là? Parce que ce que j'ai été capable de comprendre, c'est qu'au départ, c'était fait dans le sous-sol de ton partenaire. Et là, maintenant, vous êtes rendu avec un beau grand local, là.
Exactement. Comment c'était fait? C'était assez simple. L'idée était partie, en fait, le père à Gabriel avait une usine en Beauce. Puis c'était un projet pilote qu'eux avaient eu dans le temps. Donc, était déjà propriétaire de la machinerie nécessaire pour produire ce type d'étui-là. Puis Gab, lui, quand il a fini son projet au HEC, ben, il avait l'opportunité d'aller chercher cette machinerie-là qui accumulait de la poussière depuis quelques années. Puis en fait, après ça, ça a été la recherche de fournisseurs à gauche, à droite. En toute honnêteté, au début, le choix était simple. C'était fournisseur d'Asie. Puis finalement, moi, quand je suis rentré dans le portrait, on a vraiment changé notre vision du produit pour vraiment aller chercher une qualité qui était supérieure. On voulait pas être un étui de téléphone comme ceux que tu achètes sur Amazon ou autre. On visait vraiment une qualité, puis on voulait surtout le transformer nous-mêmes. Donc, CaseMe, depuis le jour 1, on est une entreprise qui produit en just-in-time. Fait le seul inventaire qu'on a, c'est les étuis qui sont blancs, donc qui sont tout blancs. Donc nous, on a plus de 50% de la transformation du produit qui est faite ici même au Québec. Donc on imprime, on cuit et ensuite on ship. Fait que côté machinerie, on avait un four, on avait une imprimante commerciale. That's it. T'sais, c'était vraiment c'est une production quand même assez simple. Puis au fil du temps, en fonction de la quantité d'étuis qu'on avait à produire, on s'est mis à... Ben, en fait, le premier move, ça a été déménager dans un premier local commercial. À ce moment-là, on avait peut-être deux fours, trois imprimantes. Puis au fil du temps, on a vraiment commencé à aller chercher des plus gros fours, augmenter la capacité de production. On a aussi investi massivement dans des logiciels internes. Donc, on produit nous-mêmes nos logiciels avec une firme en Beauce qui s'appelle Genesis. Donc, toute notre ERP est faite custom pour CaseMe pour venir vraiment optimiser la production, vitesse à tous les niveaux, en fait. Fait que je sais pas si ça répond bien à ta question, mais ça
ressemble
à ça.
Ben oui, définitivement. Puis, ce qui est intéressant dans le point que tu as mentionné, c'est que ça veut dire que vous avez pas besoin d'accumuler tant d'inventaire. Donc, ça change beaucoup de choses pour le cash flow, là. Ça veut dire que tu es capable de prendre des décisions beaucoup plus réactivement selon des commandes qui vont se faire que de se dire « Hey, il faut que je commande pour 8 mois en avance parce que le Black Friday arrive. »
Totalement. Ça fait contrairement à tous nos compétiteurs ou presque qui, eux, font produire en grande quantité en Asie, ils reçoivent leur inventaire puis leur but, c'est de le liquider au total. Tandis que nous, notre inventaire de base est transformable selon les commandes de chacun des clients. Ça fait que ce soit notre plus gros retailer, c'est Simons, exemple. Quand Simons nous passe une commande de 3000 unités, ben on produit les 3000 unités une fois que la commande est reçue. Si toi, Antoine, tu commandes un étui pour toi, on va produire ton étui pour toi. Donc ça nous a vraiment aidé aussi pour la personnalisation des produits. On a un outil en ligne qui permet vraiment de faire ton étui 100% custom. Fait que si t'as le goût de mettre une photo de ta copine sur ton étui, bon te semble. Puis c'est ça, ça fait qu'effectivement, on est super réactif selon des événements qui peuvent arriver. Si on retombe à 2020, je sais pas si tu te souviens des feux qui sont arrivés en Australie. On a décidé, nous, chez Case Me, on est tous des amoureux des animaux. Puis fait qu'on a décidé de faire une levée de fonds pour venir financer, en fait, un aide pour les animaux en Australie. Puis on s'est retourné sur un design en 48 heures. On a dit, OK, on le fait. On a eu deux designs, nos designers graphiques, on travaille là-dessus. Puis le lendemain, c'était en ligne. On a fait une levée de fonds là-dessus. Ça a été d'ailleurs un succès monstre, là. Je pense que c'est un des plus gros stunts qu'on a fait. Malheureusement, c'était à cause d'un drame vraiment triste. Mais reste qu'on a réussi à faire un don, je crois, autour de 35 000 $. Ça fait qu'on donnait 10 $ par étui vendu. Fait que, c'est ça. On peut faire des trucs comme ça. Puis on peut faire des belles collaborations avec des influenceurs, avec des brands. Tu sais, comme, c'est rendu qu'on produit des études pour le Canadien de Montréal, par exemple. Quand on parlait des influenceurs, on a un volet artiste. Donc, on fait des étuis personnalisés selon l'art de certains artistes. Fait qu'on a des collections qui roulent à tous les mois. Fait que ça nous permet vraiment d'être très réactifs.
Wow. Félicitations. C'est assez exceptionnel ce que tu viens de me dire. Puis, également, si on regarde ça d'un point de vue affaires, donc si, disons, tu travailles avec un gros détaillant comme Simons ici, puis qu'ils vont te passer une commande, ben, tu sais, quasiment avoir l'argent avant même de faire la production si tu as des plans de paiement qui te paient au début. Donc, tu es capable littéralement de changer totalement la dynamique de l'industrie dans laquelle que tu travailles là, parce que habituellement c'est tout le contraire.
Mm-hmm. Je te dirais, ce qui aide vraiment aux liquidités, c'est l'aspect e-commerce. Donc, le client achète, paye directement, puis nous, on produit en 24 à 72 heures. Ça fait que je te dirais que c'est là qu'on va chercher notre liquidité. C'est ce qui nous permet de financer justement notre inventaire puis financer aussi les commandes à des retailers comme Simons, entre autres.
Parlons-en un petit peu de ça. J'ai été capable d'entendre dans un entretien que tu avais donné il y a quelques mois de ça que 25% de votre chiffre d'affaires est avec des détaillants. 75% des ventes sont en ligne. Est-ce que ces chiffres sont toujours bons?
Ça a bougé un petit peu. Je te dirais qu'on est maintenant autour de 60% de ventes en ligne, un 30% retail, puis un 10% en fait pour des commandes corporatives. Comme l'année passée, on avait fait les cadeaux de Noël pour toute L'Oréal Canada. Donc, on avait fait des étuis custom encore une fois. Donc, ça ressemble à ça, les différents pourcentages. Puis pourquoi qu'on a réu le goût de développer le retail, c'est qu'encore une fois, par souci de profitabilité, on a finalement compris que le retail, c'est comme faire de la publicité numérique pour une audience qui connaît pas ton brand. Donc, on analysait notre coût par acquisition en ligne d'aller chercher un client qui connaît pas Case Me versus quelqu'un qui arrive tout bonnement chez Simons, achète un étui, ne sait pas on est qui. Puis on a analysé que le coût par acquisition était pas mal similaire. Puis ce qui est le fun avec le retail, c'est qu'à cause de notre packaging et toute l'expérience, souvent les gens achètent une première fois en magasin puis par la suite achètent en ligne. Donc on vient un peu s'auto-promouvoir de cette façon-là.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Il y avait Jeremy Ockerverse qui est venu récemment sur le podcast, le président et fondateur de Polysleep. Il avait exactement la même vision que toi par rapport à ça. Il disait, bon, dans le passé, c'était, pardonnez-moi l'anglicisme, là, un no-brainer littéralement de vendre quasiment exclusivement en ligne, mais avec la publicité qui devient de plus en plus chère, ben à un certain point, à un moment donné, il faut considérer l'avenue des détaillants parce que si tu fais tes mathématiques, tu vas te rendre compte que c'est peut-être plus avantageux pour ton entreprise.
Exactement.
Tu as parlé également du volet corporatif. Peux-tu nous en dire un petit peu plus comment ça se développe tout ça? Donc, de faire des partenariats avec L'Oréal, de faire des partenariats avec le Canadien, est-ce que c'est eux qui sont venus à vous? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux?
Ben, on a des coups de luck des fois, comme le Canadien, ça a vraiment été eux qui nous ont approchés, puis on en revenait comme pas, mais sinon, en général, c'est clairement du développement des affaires. L'Oréal Canada, c'est une collaboration qu'on avait à la base avec Landmark, qui est une entreprise de Montréal. Eux, ils promouvoient l'art en milieu corporatif, mais aussi dans les rues de Montréal, le Festival Mural, je sais pas si tu connais
bien sûr. Ben oui, ben oui.
Donc, eux, ça, L'Oréal était un de leurs clients. Ils ont dit, hey les gars, on aimerait ça faire des études pour eux. Ça fait qu'on a créé des partnerships comme ça avec certaines personnes, certaines entreprises. Mais sinon, c'est aussi du démarchage pur et dur par courriel, par LinkedIn. On cogne à la porte, en fait, dans la boîte d'email de des entreprises qu'on trouve cool, qu'on aimerait travailler avec eux, qui partagent nos valeurs. Puis c'est comme ça que ça a pris de l'expansion là, à travers le temps.
Puis, bon, on le sait, vous êtes deux actionnaires pour CaseMe. Comment ça se déroule la relation entre toi et ton partenaire au niveau des tâches de travail? Donc, j'ai beaucoup de discussions récemment avec les gens qui viennent sur le podcast. Il y en a qui me disent, c'est très, très clair ce que j'ai à faire comparativement à ce que mon partner a à faire. Des fois, certains disent qu'ils se pilent un peu sur les pieds. Comment ça se déroule de votre côté? Comment est la dynamique?
Je te dirais qu'on a vraiment été chanceux de se rencontrer dans le sens qu'on est 100% complémentaires sur pas mal toutes nos tâches qu'on a à faire. Donc, Gab, lui, de son côté, c'est le directeur général actuellement, mais ses tâches quotidiennes, c'est finance, opération, production également. Tranquillement, on est rendu une vingtaine d'employés, là. Ça fait qu'il réussit à déléguer certaines tâches, mais reste le core de ce que lui fait. Côté web aussi, il est super bon. Donc, puis moi, de mon côté, ça a tout le temps été niveau marketing, vente, ressources humaines aussi, bien sûr. Puis sinon, honnêtement, on est vraiment proches l'un de l'autre. On communique super bien aussi entre nous. Puis on est vraiment chanceux de s'être trouvés là.
Donc, c'est bien une belle complémentarité. Ça, c'est important de pouvoir s'assurer qu'on soit capable de faire un certain travail et quand que la ligne, on ne franchit pas la ligne de ce que l'autre personne doit faire. Donc, c'est toujours important d'avoir un partenaire comme ça. William, également, présentement, je pense que il y a quelques mois de ça, tu as intégré l'école d'entrepreneurship de Beauce et c'est un sujet que j'aimerais discuter avec toi. Mm-hmm. Comment ça se déroule? C'est quoi spécifiquement une journée typique à l'école d'entrepreneurship de Beauce?
En fait, il y a deux types de cohortes que tu peux joindre. Toi et moi, on est des jeunes personnes. Donc, il y a le programme Émergence qui est pour du monde comme nous. Donc, c'est des gens qui ont minimum 3 ans d'expérience en entreprise. Je te dirais la moyenne d'âge, je suis dans les plus jeunes, là, mais ça tourne entre 26 à 40 ans. Puis sinon, il y a le groupe, les cohortes élites, qui ça, c'est des personnes qui ont quasiment une vingtaine d'années d'expérience, qui sont soit en mode vente de leurs actions, transfert d'actionnariat à leurs enfants, des trucs comme ça. Mais pour ce qui est d'émergence, je te dirais, une journée typique, en fait, un séjour typique, ça dure 4 jours. Sur les 4 journées, tu as 2 entrepreneurs, entraîneurs qui viennent passer des 24 heures avec toi, en fait, avec toi, avec toute la classe. Puis cet entrepreneur-là traite de des sujets différents entre l'un et l'autre. Donc, comme là, le prochain séjour que je fais la semaine prochaine est sur la croissance de l'entreprise. Puis c'est vraiment spécial comme expérience. On dirait que ça devient quasiment une tribu, là. Genre, toutes les gens qui vont à l'école, j'en connais pas beaucoup qui pourraient te dire qu'ils n'ont pas apprécié ça. Autant au niveau personnel que ça vient de challenger sur tes valeurs, sur pourquoi tu le fais réellement. Fait que travaille beaucoup sur l'humain en premier et ensuite sur l'entreprise. Parce que ces deux choses-là sont intimement reliées. Fait que si t'as pas les bonnes intentions, des fois, ça peut affecter ta business, etc., etc. Donc, sur 4 jours, c'est ça. On voit 2 entrepreneurs entraîneurs. On fait des activités de team building. On fait du sport. Sinon, il y a les soirées, que ça, c'est la partie vraiment le fun aussi. 5 à 7. Les soirées après le souper aussi, c'est toujours agréable. Puis on peut faire des échanges vraiment incroyables, puis ça tisse comme une famille. Parce qu'entre entrepreneurs, on se comprend sur des choses que peut-être des gens de l'externe de notre bulle ne comprennent pas, puis c'est bien normal, mais reste que pour ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir accès à ces gens-là, puis aussi les entrepreneurs qui viennent te parler, c'est une source d'inspiration pour toi, mais ils restent disponibles pour toi par la suite. Donc, si tu as des questions, ils vont prendre le temps de te parler un 30 minutes. Tu sais, là, on est en train de former notre premier comité aviseur. On a lancé des perches à certaines personnes de l'école d'entrepreneurship, puis les gens sont super réactifs, puis vraiment une belle expérience que je te conseille fortement.
T'as-tu des anecdotes pour nous? Donc, peut-être des choses qui se sont déroulées, une classe qui a été donnée par un entrepreneur spécifique, un dicton qu'on t'a dit qui t'a marqué. T'as-tu des anecdotes pour notre audience?
Ben, le premier séjour, je vous disais, qui est vraiment plus sur l'humain, on a fait le test des couleurs. Donc, je sais pas si tu connais un petit peu, là, jaune, rouge, bleu et vert. Puis ça m'a vraiment frappé à quel point qu'on prend pas le temps dans la vie de se poser des questions vraiment profondes. Je me souviens, ma blonde est allée me chercher après ce séjour-là, puis elle était comme, t'es-tu correct? Puis, tu sais, je savais plus parler à la moitié. C'était vraiment drainant. Toute ton énergie sort en classe. Tu sais, il y a des gens qui partent à pleurer. Ça vient sortir des petits bobos que t'as eu tout le long de ta vie. Puis c'est quand même une grosse séance de psychologie, là. C'est vraiment spécial. Ça fait que ça, c'est à faire pour les gens. Puis sinon, des entrepreneurs qui m'ont marqué. Récemment, on a eu la visite de Simon Debaen de G-Soft qui ont connu une croissance.
J'ai eu son partner sur le podcast il y a deux semaines de ça. Ouais.
Cool. Lequel partner? Ils sont trois, je crois.
Guillaume Roy, qui fait partie des trois cofondateurs à la base. Assez exceptionnel l'histoire de G-Soft, mais excuse-moi de t'interrompre. Continue. Je veux savoir ce que Simon vous a dit.
Ben lui, en fait, tu sais, les gens vont là en toute authenticité, puis c'est pas un show de boucan que tu t'en vas faire là, c'est d'être le plus humain possible puis d'essayer d'aiguiller les gens qui t'écoutent sur « Hey, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, puis comment que tu fais pour prévoir ces coups-là? » Donc, ils vont venir vraiment te donner des outils, puis des outils. Plus qu'ils te partagent, eux, comment qu'ils l'ont fait, après ça, c'est à toi de décider comment que tu vis avec tes décisions. Mais je te dirais que c'est ça qui est incroyable. Ils te disent pas « Voici la façon de faire. » C'est « Nous, ça s'est passé comme ça, t'en prends puis t'en laisses. »
Bien sûr. Puis tu disais qu'il y a des séances de sport aussi, donc c'est pas uniquement orienté sur le monde des affaires. Ils essayent de vous sortir, on dirait quasiment de votre zone de confort. J'ai entendu des histoires des fois comme quoi tu peux être en classe, puis là, maintenant, on arrive, puis on dit la classe est terminée, on s'en va courir un 4 km. Comment ça se déroule, là, tout ça?
Exact. Nous, on l'a vécu en temps de COVID, ça fait que la dynamique était clairement différente des autres cas, mais reste que oui, c'est clair, tu sais, la première journée, t'es en classe, puis ils disent tout le monde sort. Amener rien. Tu arrives dehors, puis il y a juste des gros seaux d'eau. Tu tires un seau d'eau froid à sa tête. T'sais, c'est juste des façons de te déstabiliser pendant ton séjour. Pis sinon, ben, c'est des séances de sport plus team building. Là. On a joué au basket, au hockey, des trucs comme ça. Puis il y a des activités un peu plus spéciales aussi. Mais reste que c'est ça. C'est vraiment une belle expérience.
Wow, fascinant. Sérieusement, ça me donne des idées. Là. Ça me donne clairement des envies aussi. Puis, je serais curieux peut-être pour terminer un petit peu la parenthèse par rapport à l'école d'entrepreneurship. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le podcast, William, et qui nous parlent de l'influence que des mentors ont eu sur eux, à quel point que ces mentors-là leur ont fait gagner 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'éviter des erreurs fondamentales pour leur entreprise. Est-ce que tu as retrouvé ces mentors-là un petit peu à l'école d'entrepreneurship de Beauce, ou si c'est pas là, est-ce que tu en as d'autres mentors en affaires?
Ben moi, c'est quelque chose qui, depuis le début, m'interpelle beaucoup. Puis, c'est drôle, la première année qu'on avait lancé CaseMe, on recule de longtemps, là, mais il y avait une entreprise à Montréal qui vivait une croissance incroyable, qu'on voyait partout, Poche et Fils, qui font des t-shirts avec des poches et autres choses. Anthony, qui est venu d'ailleurs sur ton podcast. Puis, Anto, un gars super accessible. J'ai tout simplement lâché un coup de fil chez Poche et Fils pour pouvoir lui parler. Puis, Anto, il nous a accueillis à bras ouverts, puis il nous a vraiment aidés à mieux se structurer, comment vraiment bâtir ta vision à long terme pour l'entreprise. Il y a un background en finance aussi, ça fait qu'on a vraiment eu des beaux moments avec lui. Puis après ça, ben c'est un éternel recommencement. Moi, tu sais, je vais aller chercher quelque chose de quelqu'un, mais OK, après ça, j'ai un autre challenge, je vais aller parler à une autre personne. Puis c'est clair que l'école, c'est quelque chose d'intéressant pour ça, là, effectivement. Puis moi, j'incite mon équipe à se trouver des mentors. Je trouve que c'est quelque chose qui te fait grandir à vitesse grand V. Puis ça t'ouvre les yeux sur des perspectives que tu n'as peut-être pas pensé, parce que quand on est dans notre entreprise, c'est un peu une vision tunnel. Tu t'es focusé sur des choses précises, mais quelqu'un de l'externe peut t'amener un point de vue qui remet tout en considération. Ça fait que c'est vraiment le fun, je trouve. Puis moi, c'est une des façons que j'apprends le plus, là.
On parle de croissance beaucoup, William, mais je pense que, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt avec ce qui s'est déroulé en Australie, vous avez une conscience environnementale, vous avez une conscience sociétale. J'ai cru d'ailleurs voir sur votre site internet que vous avez pris la décision en 2020 de faire un partenariat avec l'entreprise, l'organisme Ecology, où est-ce que vous avez, je pense, pris la décision de planter 40 000 arbres. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Et peux-tu nous dire également quelle est l'importance environnementale et sociétale chez CaseMe, là, comment vous voyez le tout?
C'est un processus qui est quand même complexe à faire une fois que ta business est lancée. dans le sens que nous, on a eu ce moment, on a eu un moment, en fait, c'est moi qui ai eu un moment, j'étais allé au Culture Fest à Montréal, qui est un événement justement fait par G-Soft, puis il y avait la fondatrice de Prana qui était là, eux sont certifiés B Corp, puis exactement, ce qu'elle a fait, puis ce qu'elle abordait comme sujet, c'est de dire, ne voyez pas votre empreinte écologique comme votre produit final, mais plutôt sur tout le chemin que ça a à faire avant, avec qui que tu travailles, tes fournisseurs, comment qu'ils travaillent, est-ce que eux font un effort pour réduire leur empreinte, après ça tout ce qui est niveau packaging, après ça opérationnellement, est-ce que tu ships par avion, est-ce que tu ships par bateau, après ça au bureau, est-ce que tu utilises du gaz ou ben tu utilises de l'hydroélectricité, qu'est-ce que tu fais avec tes déchets. Fait que d'ailleurs, j'ai dit un gros merci, mais elle m'a ouvert les yeux sur toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir. Puis, tu sais, on était à notre troisième année. La réalité est que quand tu veux faire un changement de cap comme ça, ça coûte vraiment cher. C'est un peu triste parce que la planète a besoin de changement rapidement. Puis, c'est pas encore accessible pour tous les business. Si je partirais une nouvelle business aujourd'hui, c'est clair que j'aurais cette conscience-là en partant. Mais là, on l'a eu plus tard. Il n'était pas trop tard. Mais reste que en 2020, on s'est commis à planter 40 000 arbres avec écologie tout en débutant des changements à l'interne. Donc, on a tout changé notre packaging pour du packaging qui est recyclé, recyclable et compostable également. On a fait des changements opérationnels, comme j'ai dit. Nous, on shippait beaucoup par avion dans le temps. Maintenant, on y va par bateau. Donc ça, c'est des baby steps, je pourrais dire, qui se font plus facilement. Puis par après, ben c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire autre? Nous, on a décidé d'y aller avec l'avenue des arbres. Puis c'est ça, en 2020, on visait un 40 000 arbres. Finalement, on a atteint pas loin de 70 000 arbres plantés.
Oh, wow!
Puis depuis 2 ans, là, on vient de franchir le cap des 130 000 arbres plantés. Donc ça ressemble à ça pour nous. Fait que, tu sais, pour les auditeurs, des fois, ça paraît d'une montagne, puis tu sais pas par où commencer, mais toute action va venir faire une différence dans le futur. Donc, ce que je pourrais dire là-dessus.
Fascinant. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que, encore une fois, ben Marie-Josée, William, le podcast qu'on fait ensemble aujourd'hui va sortir après le podcast que j'ai fait avec Marie-Josée Richer. Puis c'était assez exceptionnel. Tout l'entretien qu'on a fait ensemble était orienté sur une prémisse, un modèle d'affaires progressiste. Donc ça, c'est le terme qu'ils utilisent, bâtir un modèle d'affaires progressiste. C'est propre à Marie-Josée, c'est propre à Prana et c'est propre également aux entreprises dans lesquelles elle investit quand elle est à l'émission Dans l'œil du dragon. Bref, tout entrepreneur avec qui je discute présentement a cette conscience-là. On dirait vraiment qu'il y a eu une ouverture, un éveil là, de l'importance d'avoir une vision davantage profonde que simplement une vision de profitabilité. Puis c'est intéressant, puis c'est important parce que c'est souvent les entrepreneurs, les entreprises qui font des très gros impacts. Donc, assurons-nous que les impacts soient positifs et soient reliés à une pérennité un petit peu plus longue de la planète, là, on va dire ça comme ça.
Exact. Puis c'est de le faire avec transparence, puis de te regarder dans le miroir, puis de dire on est loin d'être parfait. Puis entre nous, je vous mentirai pas, on produit des études de téléphone. On est conscient que notre produit est pas top pour l'environnement, vraiment pas même. Mais c'est de se dire, OK, on peut pas tout changer en même temps. On va y aller étape par étape. Donc, c'est l'avenue que nous, on a décidé de prendre. Puis on vise toujours s'améliorer au fil du temps.
Ben, c'est la première étape, c'est d'avoir une conscience, c'est d'avoir un éveil autour de ça. Tu vois, c'est on est dans les mêmes réflexions également de notre côté avec notre organisation, de se dire on aide des entreprises à faire de la croissance. Ben, c'est beau, ça peut même paraître sexy comme slogan de site internet, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on est capable de peut-être mettre de la visibilité et faire de la croissance pour d'autres, pour d'autres organismes, pour d'autres entreprises, des organisations qui en ont peut-être plus de besoins. Donc, je pense que personne n'est parfait, comme tu le dis, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir cette conscience-là, cet éveil-là. Par la suite, d'autres choses peuvent en découler.
Puis d'en parler aussi, tu sais, de donner des... Tu sais, la conversation qu'on a en ce moment, peut-être des gens aujourd'hui, dans leur retour, vont faire « Crime, c'est plus accessible que je le croyais. »
Bien sûr.
Il y a tellement de façons de le faire. Cette année, on a décidé qu'on va commencer le processus pour la certification B Corp aussi. Donc,
tout le monde en parle en ce moment, c'est fou.
Mais tu sais, c'est une belle organisation.
Bien sûr, bien sûr.
Qui donne vraiment l'heure juste sur quoi faire à l'interne. Ça fait que
ben oui. Puis ça va devenir un indispensable. J'ai l'impression que les employés vont vouloir travailler pour des organisations qui ont cette certification-là. Il y a des belles organisations au Québec qui ont donné le pas. Marie-Josée avec Prana, Annie de The Uncertain Company, elle a ça. Il y a une belle agence à Montréal qui s'appelle République qui ont la certification également. Il y a des grosses entreprises qui l'ont. Je pense que ces organisations-là ont eu la maturité de donner le pas. Puis c'est ça, c'est à nous de continuer sur cette ligne-là. Puis, William, avant que je te pose des petites questions davantage personnelles, à quoi ressemble l'avenir de Case Me? Comment tu vois l'organisation pour, disons, les 24-36 prochains mois?
Bonne question. Je te dirais, en fait, nous, depuis les 5 dernières années, on a une croissance principalement au Québec. Maintenant, on vend, oui, au Canada anglais, on vend aux États-Unis, on envoie quelques étuis aussi en Europe, en Australie, mais reste que notre focus depuis le jour 1 était principalement au Québec, mais depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on roule la publicité au Canada anglais, puis c'est vraiment long d'aller pénétrer un marché de façon notable.
Bien sûr.
Donc nous, notre vision pour le futur des 2 prochaines années, c'est de dire, visons la profitabilité maximale au Québec pour venir financer notre croissance à l'extérieur du Québec, parce que ça prend beaucoup de temps. T'sais, aux États-Unis, ça fait à peu près 1 an et quelques mois qu'on roule la publicité, qu'on fait des campagnes d'influence. Puis je crois que ça fait juste 2 mois qu'on vient de franchir le seuil de la rentabilité. Parce qu'avant, on perdait de l'argent à chaque fois qu'on vendait un étui là-bas. Mais tranquillement, après ça, il y a du bouche à oreille. Donc, je te dirais que la vision est toujours de croissance. On veut devenir le plus gros joueur au Canada d'ici les 2 prochaines années. Ensuite de ça, parallèlement à cette croissance-là au Canada, on continue l'offensive aux États-Unis, parce qu'il est intéressant de comprendre, quand on analyse les chiffres, quand on analyse les codes promo qu'on envoie aux influenceurs, c'est que les influenceurs avec qui on travaille aux États-Unis ont une grosse influence sur les Canadiens. Donc, quand on envoie des étuis aux États-Unis, souvent les codes promo sont plus utilisés au Canada qu'aux États-Unis. Fait que c'est de quoi de vraiment intéressant pour ça, là.
Intéressant. Puis, je termine, petite question personnelle. Je suis un grand amateur de lecture d'affaires, William. Est-ce que tu lis également des livres de ton côté? Tu nous en as parlé de un plus tôt, donc je me dis peut-être qu'il y en a d'autres.
Effectivement, oui, j'aime beaucoup lire. Puis je te dirais, depuis 2 ans, j'adore les audiobooks. Je suis souvent sur la route et tout. Donc oui, j'en ai quelques-uns. Je crois que le premier, quand on avait lancé Case Me, qui m'avait vraiment marqué, c'est Rework. Les deux fondateurs de Basecamp, anciennement 37 Signals. C'est un livre qui m'avait vraiment marqué.
Moi, j'ai adoré.
Ouais. Vraiment un beau livre. Sinon, à part ça, l'année dernière, j'ai lu 2 livres, un après l'autre, concernant Netflix. Le premier, No Rules Rules. Et également Powerful, qui était Patty McCord, qui était leur head of HR là-bas. Vraiment incroyable. D'ailleurs, grâce à ce livre-là, on a intégré récemment une politique de travail limitée chez Case Me. De vacances illimitées, pardon.
De vacances. Ah ouais, OK, ouais. Wow.
Fait que ça, puis sinon, plus moins business, mais quand même applicable, parce que les exemples donnés dans les livres sont en lien avec la business. Ryan Holiday a écrit, entre autres, Ego is the Enemy, Obstacle is the Way. C'est 2 excellents livres comme croissance personnelle, mais aussi business. Je te dirais que c'est mes tops qui me viennent en tête rapidement.
J'ai terminé il y a à peu près 2 mois de ça, No Rules Rules. J'ai été impressionné de cette culture-là chez Netflix. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas lu ce livre-là, allez mettre la main dessus, c'est totalement fascinant. Il faut que les gens comprennent que Netflix en ce moment dans le monde, c'est l'entreprise parmi lesquelles les gens veulent le plus travailler.
Ah,
et
oui.
Ça depuis plusieurs années maintenant, oui. Et leur culture n'est pas, c'est pas un hasard. Là. Leur culture est derrière le tout, donc tu le dis. Mais c'est plus profond que juste dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui que oh, c'est parce qu'ils donnent des vacances illimitées. Non,
vraiment
c'est la manière qu'ils approchent le tout. Il y a un processus autour de la densité de talent, autour de dire dans le blanc des yeux là. Je trouve que ton travail est pas bon, faut que tu changes. Bref, les gens arrivent là-bas puis ils voient vraiment les choses de manière totalement différente. Je pense que c'est un livre que si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur une culture d'entreprise qui fonctionne, allez mettre la main sur No Rules Rules, c'est totalement fascinant.
Je la sors à un de mes bons amis qui s'occupe plus du droit chez Netflix. Elle habite à LA, puis elle m'a vraiment confirmé que c'est bel et bien le cas, là. C'est pas juste dans le livre que ça a l'air tout beau. C'est, ça marche vraiment de même, puis tous les employés respirent les valeurs et les véhicules. Fait que c'est même pas aux gestionnaires ou aux gens plus haut dans la hiérarchie qui ont à dire quoi que ce soit. Les employés se le disent entre eux quand quelque chose fonctionne pas, puis ça a pas de prix, là. C'est incroyable.
Ouais. Ça, c'est quand t'as bâti une culture qui est tellement ancrée dans la tête des gens que t'as même plus besoin des gestionnaires. C'est fascinant. T'as parlé d'audiobook. Écoutes-tu des podcasts également?
Oui. Ben, il y a le tien que j'ai découvert depuis à peu près un an que tu fais vraiment un beau travail, honnêtement. Toujours bien exécuté. Tu fais bien tes recherches. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre podcast que j'écoute souvent qui est How I Built This, produit par NPR. Le gars, c'est Guy Raz, je crois. Fait que ça me fait vraiment penser à Hypercroissance, d'ailleurs.
Ah, c'est bon, ça. Merci.
Puis sinon, les podcasts, j'en écoute moins qu'avant. Je suis plus rendu en mode audiobook. Je le sans fil des fois par les gars du studio SF pour décrocher aussi, que j'aime bien. Puis sinon, ça ressemble à ça.
Merveilleux. Puis, dernière question que je te pose, William, avant de te laisser filer. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail?
Bonne question. Habituellement, je me lève autour de 4h45, 5h le matin, puis je commence avec un petit café, je rentre dans mes courriels. C'est vraiment le moment de ma journée que t'es un peu intouchable, là. Les gens dorment, ça fait que tu peux pas te faire déranger par le téléphone ou quoi que ce soit. Ça fait que je m'occupe de vraiment descendre ma liste de emails à ce moment-là. Après ça, je vais souvent m'entraîner le matin autour de 6h30, 7h. Puis après ça, on commence la journée. Puis au fil de la journée, moi, je travaille avec des blocs d'heures dans mon horaire. Ça fait que j'essaie vraiment de me bloquer une heure pour travailler sur une tâche précisément. On essaie de faire moins de meetings aussi, là. C'est des fois, tu réalises que c'est pas tout le temps efficace. Puis sinon, je suis pas quelqu'un de workaholic. Moi, souvent, à 4h30, j'ai pas mal terminé ma journée. 4h30, 5h dans ces eaux-là. C'est sûr qu'il y a des moments qui nécessite malheureusement de continuer plus tard, mais en général, je te dirais que ça ressemble à ça.
Merveilleux. Ben, William, ça a été un épisode assez intéressant, assez profond. Puis si les gens veulent en apprendre un peu plus sur CaseMe, peut-être que vous avez des postes ouverts. Également, on peut les inviter à aller voir votre site internet.
Côté postes ouverts, on est toujours intéressé de recevoir des CV. Ça fait que s'il y a quelque chose qui veut vous intéresser chez CaseMe, faites-nous signe. Sinon, casemedesign.ca, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes sociales @casemedesign. Puis sinon, ben ça ressemble à ça. Puis je souhaite te dire un gros merci pour ça. C'était vraiment agréable de discuter avec toi.
Merci à toi également, William. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 100e épisode de Hypercroissance vous aura permis de découvrir une nouvelle entreprise québécoise qui, peut-être, vous ne connaissiez pas encore. Également, on risque de réentendre William très bientôt sur le podcast. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous invite à rester à l'affût des prochains épisodes. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.